Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel, à l'écoute de notre émission.
Bonjour Jérusalem.
Avec en régie, nous avons l'honneur de recevoir Émilie et Elisabeth à mes côtés. Nous allons donc évoquer en première partie de cette émission l'histoire d'un célèbre tableau.
Bonjour Christine, de quel tableau parlez-vous ?
Eh bien en fait, il est très peu connu, c'est le tableau que James Ensor, peintre belge, peint en 1888 et qui se nomme « L'entrée du Christ à Bruxelles ».
Ah, je n'en ai jamais entendu parler. Que représente-t-il, bien sûr, « L'entrée du Christ à Bruxelles », mais en détail peut-être.
Premièrement, on se trouve face ou de profil ou de trois quarts. Donc ce tableau représente un personnage chapeauté, casqué, masqué. On ne sait pas s'il est masculin ou féminin. C'est un squelette blanc, rose, beige. Enfin, on lui donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et enfin, il y a 1000 visages qui envahissent la toile et qui égarent évidemment les regards. On se demande d'ailleurs où se trouve le Fils de Dieu qui donne son nom au tableau.
Il est peut-être perdu au milieu de la foule.
Oui, soit il est perdu, soit il est égaré sur un âne gris, hein, comme c'est la coutume. En fait, seule son auréole jaune permet de le remarquer parmi les personnes qui semblent rassemblées, non pour une cérémonie religieuse, mais plutôt pour une fête carnavalesque qui se tiendrait un premier mai.
Alors donc, on peut dire que c'est un simple quidam qui est perdu dans la foule.
Oui, et plus qu'un quidam, c'est aussi un hurluberlu parmi les humains, plus grotesques les uns que les autres, pantins, grimaçants et parfois même squelettes, qui ne sont mus que par la jalousie, la cupidité, le désir, l'hypocrisie et bien d'autres défauts encore.
Des choses négatives, n'est-ce pas ? Alors, Ensor porte donc un regard assez noir sur la condition humaine.
Ah oui, là, on peut le dire tout à fait, Élie, car pour cet homme, il considère que l'homme est vaniteux, le monde absurde et la réalité très laide, ce qui fait que ce regard sombre sur l'existence se trouve effectivement bien représenté dans ce fameux tableau.
Alors, Ensor fera-t-il un pied de nez à la figure majeure de ce tableau ?
On pourrait le penser, hein, puisque seul le maire de la ville semble réaliser que le Christ arrive à Bruxelles. Mais pourtant, la foule reste indifférente, suivant plus un pitre avec une mitre et un bâton de pèlerin, et juste un petit panneau sur le côté, applaudissant à Jésus, roi de Bruxelles.
Alors, c'est vraiment du Ensor. Que vient de faire le prophète à Bruxelles et qui d'ailleurs, a des traits de peintre.
Il avait, oui, on peut le dire, mais au-delà de cette histoire du peintre belge, donc né en 1860 et décédé en 1949, ce tableau en fait, retrace son enfance à Ostende, où le carnaval était une fête importante, hein, et dans une maison dont le rez-de-chaussée était un magasin étrange, où sa mère vendait des masques et des tas d'autres objets étonnants.
Alors, je suppose que cet endroit a développé chez le peintre un imaginaire tout à fait débordant.
Oui, d'autant plus qu'effectivement que cet imaginaire, dans l'univers des masques et des visages grinçants d'Ensor, s'ancre dans l'histoire de la peinture belge, tant ils héritent des œuvres de Bosch et de Bruegel. Cependant, effectivement, son insolence lui vaudra tout de même quelques problèmes. Son tableau est d'abord refusé au salon du cercle artistique avant-gardiste des 20e siècle, dont il est pourtant l'un des membres fondateurs.
Et pourquoi donc ?
Eh bien, parce que ce tableau a été jugé trop audacieux par sa forme pré-expressionniste et ses couleurs totalement radicales, ainsi que par son fond iconoclaste. On parle même d'exclure Ensor du cercle tant il est contestataire, anarchiste hein, même. Il a mal vécu ce refus alors qu'il était déjà tellement critiqué par rapport à l'humanité. Il a d'ailleurs écrit ces mots « Mes concitoyens d'éminence moluqueuse m'accable, on m'injurie, on m'insulte, je suis fou, je suis sot, je suis méchant, mauvais ».
Le pauvre alors, mais on reconnaîtrait bientôt le génie d'Ensor, je pense.
Car en plus, il est appelé le peintre, le prince des peintres, qu'il est fait baron et que face à ses honneurs venus pour lui un peu trop tardivement, il abandonne la peinture pour se retourner vers la musique.
Alors, dommage pour nous, ou peut-être bien pour nos oreilles.
Pour nos yeux
surtout. Alors maintenant,
oui.
De quoi allons-nous parler
Voilà, on va changer un peu de sujet. Je voudrais parler de l'Église primitive. Alors, on va s'intéresser à l'Église primitive en Galilée, plus précisément à des fouilles en Galilée occidentale, suggérant l'importance du rôle des femmes dans l'Église du 5e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire durant la période durant laquelle le christianisme s'est rapidement propagé dans la région.
Alors, vous ajoutez peut-être de cette information qui a été donnée par qui ?
Alors, elle a été donnée par Christophe Lafontaine, qui est journaliste et correspondant du Patriarcat latin de Jérusalem et qui est vraiment, qui est ma source, on va dire, de nouvelles.
D'informations. Voilà. Bon, ben merci pour cette précision, Christine. Je crois que... Ça fait toujours bien de savoir un peu plus en détail les choses.
Ah ben oui, d'autant plus que là, il est sur place, donc il a de quoi nous raconter. Alors, donc pour donner un peu plus de précision à cette église primitive...
Qu'est-ce qu'on y trouve déjà, alors ?
Alors, on y trouve déjà 7 mosaïques et inscriptions grecques de la fin de l'Antiquité qui ont été retrouvées dans l'ouest de la Galilée cet été, donc c'est tout récent. C'est le résultat de fouilles réalisées dans 3 églises byzantines, dont une jusque-là totalement inconnue. Les 2 autres avaient été découvertes plus tôt. Et la presse israélienne s'en est bien sûr fait l'écho la semaine dernière. Et afin d'éviter tout acte de vandalisme, l'emplacement exact, bien sûr, n'a pas été dévoilé. Hein. Il faut quand même protéger.
Je pense qu'ils n'ont pas tort. Alors, je pense que c'est une très bonne initiative que de conserver ces fouilles.
On va les conserver, bien sûr. On en aura certainement des descriptifs un peu plus fouillés, on va dire. Alors, c'est vrai aussi que chacun dans son domaine respectif, hein, l'archéologue Mordecai Aviam et l'historien Jacob Ashkenazi, tous deux du collège de Kinneret, qui est l'institut universitaire du lac de Tibériade, a reçu une bourse pour 3 ans de la part de la Fondation israélienne des sciences afin de compléter un travail interdisciplinaire pour enfin conceptualiser la vie chrétienne en Galilée au 4e et 5e siècle après Jésus-Christ.
Alors, racontez-nous-en un petit peu plus peut-être.
Oui, on va essayer de détailler. Hein. Eh bien, dans l'une des 7 mosaïques retrouvées, on y dépeint la place importante que les femmes ont pu avoir dans l'Église primitive. D'ailleurs, une inscription en grec du 5e siècle après Jésus-Christ fait ainsi mémoire d'une certaine Suzanne, reconnue et honorée comme une bienfaitrice, mécène pour la construction d'une église de village. Et comme l'indique l'archéologue Aviam, il est tout à fait surprenant qu'elle ne soit pas mentionnée avec son mari. Elle est une femme indépendante qui a mis à disposition son argent pour l'église, ce qui en dit long, bien sûr, sur la vie dans ce village de Galilée.
Elle était peut-être veuve et riche.
Il fallait avoir.
On ne sait pas, alors. Donc, c'est vrai qu'à cette époque post-romaine, les femmes dépendaient financièrement de leur mari ou d'un tuteur masculin, d'où cette inscription plutôt surprenante.
Bah, oui, plutôt, parce que là, c'est vraiment la femme qui décide, a priori. Il y a presque égalité. Alors, ce qui prouve donc bien qu'au-delà des grandes villes qui abritaient des familles aristocratiques, des femmes pouvaient obtenir un statut indépendant. Suzanne n'était certainement pas un cas isolé au 5e siècle. Il faut reconnaître qu'un certain nombre de femmes de la classe supérieure ont joué quand même un rôle important dans l'histoire de l'Église primitive.
Alors donc, c'est dans les classes supérieures que les femmes se tournaient souvent vers le christianisme, tandis que les hommes restaient souvent païens pour conserver leur statut social et politique.
Et oui, et cette découverte étaye donc la thèse que très tôt dans l'histoire de l'Église, les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans sa fondation.
Alors, quant aux autres mosaïques, où ont-elles été découvertes ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans 3 églises qui présentent des ouvrages élaborés, ce qui peut porter à penser que derrière les commandes, des communautés prospères contribuaient ainsi à la richesse de ces églises, c'est-à-dire ils commandaient.
Alors, que représentaient alors les tesselles des églises ?
Alors, contrairement à la norme dans les églises des villes riches, les sols en tesselle des églises dans les villages de Galilée occidentale ne représentent pas d'animaux, mais des formes géométriques ou des inscriptions. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait une quelconque interdiction d'ordre spirituel, mais que les habitants des régions rurales ne pouvaient pas se permettre d'embaucher des artistes reconnus pour leurs motifs floraux ou animaliers. Donc, le plus simple possible et le moins cher aussi.
Et oui, et de ce fait, on peut dire que ces artistes là n'étaient sans doute pas les meilleurs.
Oh, certainement, oui, il faut néanmoins quand même faire 2 exceptions. Une mosaïque représente la branche d'un grenadier et une autre, impressionnante par sa taille, c'est-à-dire 5 mètres de long, fait figurer un paon. C'est d'ailleurs la plus grande mosaïque jamais trouvée dans cette région.
Alors, il y a sans doute des inscriptions qu'on devra déchiffrer.
Oui, on a trouvé des inscriptions puisque l'ouvrage permet effectivement de lire sa date d'origine, qui est en août-septembre 445 après Jésus-Christ, et le nom de l'évêque de Tyr, Irénée. Il est aussi écrit que ce prélat est un ami de Nestorius, une figure controversée des débuts du christianisme, connue pour avoir critiqué le titre Théotokos, entre parenthèses, ça veut dire « qui enfantait Dieu », improprement traduit par Mère de Dieu, donner ainsi à la Vierge Marie.
Alors en quoi Nestorius était-il une figure controversée ?
Eh bien, il considère en effet qu'une femme créée ne pouvait pas être la Mère de Dieu, être par excellence et donc sans cause. Son enseignement reconnu hérétique fut alors condamné. Jusqu'à la découverte de la mosaïque, les chercheurs n'étaient pas sûrs de l'année de l'ordination d'Irénée en tant qu'évêque de Tyr, qui était alors sous la domination, qui était alors une ville dominante, mais qui maintenant aujourd'hui s'appelle le Liban.
Voilà, c'est ça. Alors, l'inscription met la date de l'achèvement de l'Église en 445 de notre ère et accorde à Irénée le titre d'épiscopos, fournissant la confirmation historique. Il était déjà donné l'évêque dès 444.
Alors oui, en fait, et en plus de l'évêque Irénée, il y a d'autres noms de la hiérarchie de l'Église qui sont tirés de ces inscriptions. Alors, les noms inscrits incluent des diacres et un évêque envoyé spécial qui a erré parmi les villages de Galilée pour répondre aux problèmes religieux, ainsi qu'un autre évêque qui était quant à lui responsable des ressources économiques.
Alors, cette période fut-elle une conversion du paganisme au christianisme fulgurant, non ?
À vrai dire, je ne sais pas, franchement, mais l'Empire romain est devenu chrétien effectivement au 4e siècle, ce qui indique que dans l'espace de plus d'un siècle, le christianisme et la foi en Jésus avaient profondément pénétré les collines reculées de la Galilée.
Alors nous allons continuer à penser à tout ça pendant une petite pause musicale avant d'aborder un autre sujet.
Thank you.
Alors, nous revoici dans les studios de Radio Grand Ciel dans notre émission. Bonjour Jérusalem et Christine Simon nous raconte des jolis et intéressants sujets, tout ce qui touche Jérusalem. Alors, quel est notre prochain sujet, voilà, alors, je vais y arriver.
Alors, c'est vraiment un sujet tout aussi intéressant que le premier, parce que nous allons rester dans la même région, en Galilée, où un flux important d'habitants arabes de Nazareth émigre actuellement vers la nouvelle ville qui s'appelle Nazareth Élite, qui veut dire colline, et qui se trouve sur la colline voisine construite pour judaïser la Galilée.
Alors, pourquoi font-ils ce choix ? Et comment sont-ils accueillis ?
Alors, une personnalité de Nazareth, Rana, décrit la vieille Nazareth était belle et romantique, simplement magique. Mais en réalité, la ville est paralysée par la densité de la population, le manque de services et d'infrastructures, manque d'air, de propreté, enfin, tout ce qui fait le bonheur.
Alors, on a fait tout de suite 15 siècles de...
On a fait l'avancée,
un saut. Ça un paraît saut, beaucoup moins joli que ce qu'on a abordé juste avant notre
pause
musicale.
Donc une ville assez polluée.
Alors, est-ce qu'on appelle la recherche d'une qualité de vie, n'est-ce
bien
pas
sûr, enfin,
est-ce qu'on aimerait bien sûr.
Bien sûr, parce que malgré sa beauté et sa magie, Nazareth n'est plus le lieu où les Nazaréens veulent voir grandir leurs enfants. Et même si Nazareth Élite semble leur offrir le meilleur des deux mondes, elle est officiellement quand même une ville réservé entre guillemets aux Juifs.
Alors, les prix des appartements seraient-ils moins chers à la vieille ville de Nazareth ?
Il semblerait qu'effectivement, pour 94 000 euros, on peut acquérir un 90 mètres carrés à Nazareth. À Nazareth Élite, le village nouveau. Alors qu'en vieille ville, il faudrait compter environ 235 000 euros. Donc, vous voyez, l'écart est énorme.
Donc,
ça...
la vieille ville est beaucoup plus chère.
Ah ben oui.
J'imaginais le contraire.
Oui,
hein.
Oui. Non, c'est la vieille ville. Donc.
Alors, à quel moment a été construite la nouvelle ville ?
Eh bien, Nazareth Élite a été conçue dans les années 50 pour judaïser la Galilée. Aujourd'hui, en fait, certains chiffres estiment à 23% le nombre de ses habitants arabes. D'autres parlent même d'un tiers. La superficie de ce nouveau village est le double de celle de Nazareth. Et pour chaque kilomètre carré à Nazareth, habitent 5,367 personnes. Je ne sais pas comment on peut...
C'est un peu difficile à découper.
à découper tout ça. Soit quand même 4 fois plus qu'à Nazareth Élite.
Alors, merci Christine. Alors, vous vous souvenez certainement qu'il y a quelque temps, vous nous aviez parlé d'un projet de téléphérique qui relierait Jérusalem-Ouest à la vieille ville de Jérusalem-Est. Alors, qu'en est-il de ce projet ?
Oui, c'est vrai, je m'en souviens bien et je peux même vous indiquer que le gouvernement israélien a donné son aval dimanche dernier, c'est-à-dire il y a à peu près quelques semaines à peine, pour la construction de ce téléphérique qui tutoiera le ciel de Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est. En fait, à l'origine, un constat. La vieille ville de Jérusalem, centre névralgique du tourisme en Terre Sainte, souffre d'embouteillage et de pollution. Et ce projet vise à désengorger l'accès au mur des lamentations.
De quel endroit partira donc ce téléphérique, pour ceux qui connaissent bien Jérusalem ?
En fait, il va partir depuis l'ancienne gare ferroviaire jusqu'à la porte des Immondices. La télécabine suspendue sur un câble de 1,4 km pourra transporter 3000 passagers par heure. Le dispositif devrait être sur rail à partir de 2021. Il glissera à une vitesse de 21 km/h selon les estimations du ministère du Tourisme israélien.
Il y a eu aussi une polémique quant au dispositif et au tracé de cet engin, il me semble.
Oh là là, oui, plus qu'un plan d'aménagement urbain. En fait, ce téléphérique recèle, selon de nombreux observateurs, une intention politique. Évidemment, entre parenthèses.
Ah.
Alors, pour bien comprendre, le téléphérique serait implanté à proximité de divers lieux saints, juifs, musulmans et chrétiens. Il désenclaverait de ce fait des colonies juives situées dans la partie arabe de la ville et les Israéliens considèrent donc la ville comme leur capitale une et indivisible.
Et bientôt, ils ne sont pas les seuls qui le considèrent, n'est-ce pas ? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais alors, c'est d'ailleurs ce que la communauté internationale ne reconnaît toujours pas.
Bien sûr, et là on est en plein dedans, hein. Si vous écoutez un peu les médias,
c'est
voilà. Donc on ne va pas rentrer dans cette polémique, ce n'est pas notre rôle, mais
Alors, que revendiquent les Palestiniens ?
Alors, les Palestiniens, ben là, on va, malheureusement, on va être obligé quand même d'aborder un peu le côté politique de l'affaire. Mais bon, ça ne nous engage à rien. Hein. Oui, c'est, voilà. Les détracteurs de ce projet soupçonnent pourtant la municipalité israélienne de chercher à instaurer dans les esprits l'occupation de Jérusalem-Est en créant une continuité entre la partie ouest de la ville et les colonies juives situées effectivement à l'est. Cela créerait inévitablement un état de fait qui compliquerait le partage de la ville en cas d'accord de paix.
Alors on peut craindre alors des oppositions tant politiques qu'économiques.
Bien évidemment.
Et ou idéologiques.
Alors. Oui, mais bien évidemment, hein, puisqu'à titre d'exemple, on envisage l'implantation d'une dizaine de pylônes qui vont s'égrener autour de la ville sainte, dont un pourrait être planté dans le jardin de Saint-Pierre en Galicante, sanctuaire catholique qui commémore le reniement de Saint-Pierre. Vous imaginez l'horreur.
Eh bien voilà, c'est assez choquant, même l'idée, mais voilà, l'affaire est à suivre, n'est-ce pas Christine?
Oui,
alors vous allez nous en reparler en temps voulu.
Autre sujet à exploiter peut-être? Oui, allez-y. Alors donc, un autre sujet qui concerne le portail Bibliothèque d'Orient qui a été officiellement lancé il y a 2 mois. Élaboré par la banque, par la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec 7 institutions du Proche-Orient, qui donne accès à près de 7000 documents patrimoniaux d'exception.
Et ce n'est pas rien. Alors, et d'ailleurs, ce portail numérique qui serait mis en ligne recèle de véritables trésors, il me semble.
Oh oui, puisque des livres imprimés, manuscrits, des articles de presse, des cartes, des estampes, des gravures, des poèmes, des partitions, des œuvres d'art ou encore des photographies viennent donner vie à des siècles d'histoire et ouvrir ainsi les portes de l'Orient à tout un chacun.
Alors Christine, peut-on connaître la période où ce portail s'ouvrira ?
Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas moins de 7000 documents et ces documents sont remarquables comme ils sont peu connus du public car ils ont été dispersés entre différents pays et d'autres multiples institutions. À coup sûr, c'est une grande page de culture qui s'ouvre. L'ambition est d'illustrer les échanges entre la France et les 7 pays du Proche-Orient qui sont l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Palestine, la Syrie et la Turquie. Et les corpus documentaires numérisés témoignent des relations entre ces différents pays, de la façon dont chacun a été appréhendé et représenté par l'autre durant des siècles de contact.
Donc effectivement, c'est énorme. Donc comme je demandais à quelle période ça va s'ouvrir ce portail?
Alors, la période, bientôt. En fait, on pense, elle couvre principalement la période de cette documentation, de ces 7000 documents, couvre principalement la période de 1798 à 1945, et tout ça en 3 langues, français, arabe et anglais.
Donc c'est à ce à quoi nous avons accès actuellement déjà.
Oui,
voilà.
Alors on a accès à ces documents-là pour l'instant.
Il a fallu, j'imagine, Christine, dans un premier temps, prendre contact avec les 7 bibliothèques patrimoniales.
Ça n'a pas été une sinécure, comme on dit, puisque la Bibliothèque nationale de France a quand même réuni les collections de ces bibliothèques au Proche-Orient, spécialisées dans les études orientales. Et parmi ces protagonistes, on compte en fait 2 institutions dominicaines. L'un, c'est l'Institut dominicain d'études orientales au Caire et l'École biblique et archéologique française de Jérusalem et Baf.
Alors, y a-t-il d'autres personnes, d'autres...
Oui, il y a d'autres intervenants. Le couvent Saint-Étienne conserve, lui, à Jérusalem, plus de 150 000 volumes et 1000 titres de revues spécialisées qui traitent d'archéologie et de littérature du Proche-Orient ancien et récent, ainsi qu'une importante collection de plans et de cartes topographiques. Sa collection de photos remonte, elle, à la fin du 19e, début du 20e, et contient environ 15 000 négatifs en verre et plusieurs milliers de photos de la région. Donc c'est vraiment un patrimoine très riche.
Et vraiment considérable.
Et très complexe.
L'Institut dominicain, qu'a-t-il proposé pour
Alors,
ce part ?
Alors, cet Institut dominicain, lui, gère l'une des plus importantes bibliothèques spécialisées dans le domaine de l'islamologie, avec plus de 125 000 volumes et 1800 titres de périodiques. Il propose en plus 20 000 textes du patrimoine arabo-musulman.
Alors, qu'en est-il des autres protagonistes ?
Alors, participe également au projet Bibliothèque d'Orient, l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, le Centre d'études Alexandrine à Alexandrie, l'Institut français du Proche-Orient, la Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph, toutes deux à Beyrouth, et enfin l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Et dès le mois de janvier de l'année prochaine, en 2018, de nouveaux partenaires institutionnels, français et étrangers, devraient en principe rejoindre également le projet.
Alors, une sélection soignée a donc été, a dû être organisée,
oui,
je suppose.
Elle le fut effectivement par un conseil scientifique composé de conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, de représentants des établissements partenaires et de scientifiques de haut niveau, dont les 7000 documents réunis sur le portail numérique sont répartis à travers 7 rubriques thématiques. Carrefour, pluriel, communauté, religion, savoir, politique, imaginaire et personnalité.
Alors, on peut avoir un aperçu de ces collections, Christine ?
Elles rassemblent notamment des précieux manuscrits hébreux, des cartes qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l'histoire sociale et économique de la Turquie, la première revue féministe L'Égyptienne en langue française, fondée en 1925, ou encore Le Caire, immortalisé par le photographe italien Beniamino Facchinelli, 1839-1895, voire même des notes manuscrites authentiques de la main de Gérard de Nerval, tirées de son fameux livre
Carnet de voyage
en Orient, que tout le monde connaît.
Alors, de nombreuses œuvres, donc, qui sont autant de vestiges et qui non seulement vont être valorisées, mais protégées aussi par la même occasion. Voilà, je pense, Christine, qu'on va s'arrêter là, qu'on n'aura qu'une seule pause musicale dans notre émission d'aujourd'hui, parce que tout ça a été passionnant, très long, bien sûr, en détail, et encore, on ne vous a pas tout dit.
Il y a encore plein de choses à dire.
Mais bon,
mais
on
ça sera
reprendra
pour la prochaine fois.
La prochaine fois, on va continuer ce
avec
sujet.
Plaisir.
C'était ma foi très intéressant, ce tableau du 19e siècle, et une église du 4e siècle,
j'ai découvert ce tableau dans le sort, que je connais un peu en le sort, mais ce tableau, l'entrée à Bruxelles, non, je ne connaissais pas.
Ah, tout à fait passionnant. Ouais. Dommage que nous n'avons pas l'écran, on ne peut pas vous le montrer, mais essayez de le chercher
sur
Internet.
Si je pouvais. Mais il faut aller en Belgique, c'est tout. Il faut aller à Bruxelles, il y a des tas de musées.
Ou bien devant un bon écran. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci à tous nos auditeurs.
Merci à Émilie de nous avoir accompagnés. Et voilà, à bientôt pour une prochaine émission. Bonjour Jérusalem.
Merci. Au revoir Émilie, au revoir Elisabeth et à bientôt.
À bientôt.